Et eux, systématiquement, s'il y a possibilité de montrer quelque chose qui est raconté dans le texte, ils enlèvent le texte et ils montrent. Je me suis dit, mais c'est vachement marrant cette chose-là. Moi, j'ai tout le monde au plateau, les excuses d'Alceste à Oronte, on va les jouer. On va enlever tout le monologue de Philinte, enfin toute la tirade très longue, très compliquée, de Philinte à Eliante au début du 4, où il raconte toute cette confrontation au tribunal des maréchaux de France. On va simplement avoir Philinte qui dit à Alceste à un moment donné, il faut suivre l'ordre, allons, disposez-vous, pour obtenir les excuses. Et c'est Limen qui prend Alceste par la manche et qui va le poser devant Oronte, qui est là au fond du plateau. Et Alceste, à ce moment-là, reprend juste les quelques vers cités par Philinte au début du 4. Monsieur, je suis navré d'être, je suis fâché d'être si difficile, mais pour l'amour de vous, je voudrais de bon cœur avoir trouvé tantôt votre sonnet meilleur, qui l'adresse, là, Alceste, à Oronte, et Oronte vient, et l'embrassade citée par Finette est dans une embrassade, on l'aura fait. Je me souviens pas de ces vers-là, puisqu'on les a coupés, encore une fois, tous ces vers de Finette. Mais où Finette dit qu'en gros, ils se sont embrassés, eh bien, Finette, enfin, Alceste et Oronte s'embrassent, et donc, la réconciliation, cette scène d'Alceste et Oronte qui est racontée par Finette, cette fois, on la joue sur le plateau. Voilà l'exemple type de transformation ou de modification qu'on a opérée. Parce qu'il y avait une chose qui ne tenait plus, évidemment, avec tout le monde au plateau, c'était les récits rapportés de gens qui, entre-temps, seraient sortis. Puisque personne ne pouvait sortir. Donc ça nous obligeait à transformer des choses. Et un autre exemple de ça, c'est que, du fait de cet enfermement, et aussi du fait que ce qu'on se disait entre nous au fond, quand on regardait la pièce, mais ça c'était lié encore à ce groupe d'acteurs et à l'histoire entre nous, ce qu'on se disait au fond, c'est que c'était tombé sur Alceste, mais que ça aurait pu tomber sur n'importe lequel des autres. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui nous intéressait chez le misanthrope, c'était pas l'idée d'un caractère, c'est-à-dire d'un personnage qui serait un caractère ou une psychologie qui serait foncièrement misanthrope, contre justement la théorie des humeurs, mais simplement une vision plus moderne, ou pour le coup brechtienne, on pourrait dire, de la pièce, parce que Molière c'est le patron, et puis Brecht c'est l'autre, enfin d'une certaine manière quand on fait du théâtre en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est à la fois le fils de Jouvet et le fils de Planchon, je sais pas comment vous dire, mais... Et donc, Brecht, ben, c'est une situation. En fait, ce qui nous intéresse chez Alceste, c'est pas un caractère, c'est une situation. C'est un rapport de force, c'est quelque chose qui lui arrive. Bon, c'est pas une donnée de son tempérament. Et donc, la situation, c'est quoi? Très basiquement, hein, on se disait, mais au fond, c'est quelqu'un qui est en train d'atteindre une limite. C'est quelqu'un qui est en train d'atteindre une limite pour une raison centrale, à mon avis. Enfin, nous, en tout cas, dans ce qu'on a lu dans la pièce, c'était que... Il aime une femme libre, ce qui est très compliqué pour lui. Il a beaucoup de mal dans son rapport à la liberté de Célimène. C'est très très difficile pour lui, cette chose-là. Il n'est du coup pas aimé comme il voudrait l'être. En tout cas, il doute de l'amour de cette femme. Et que, doutant de la sincérité de Célimène, il se met à douter de la sincérité de la terre entière. C'est le monde entier qui est frappé de fausseté à partir de la fausseté de Célimène. C'est ça qui est en train d'arriver à cet homme. C'est pour ça, quand je dis ça, je me permets des affirmations péremptoires qui ne sont jamais qu'une lecture. C'est-à-dire, encore une fois, que la conviction que j'ai eue à la fin du travail, je disais en commençant que la pièce m'avait semblé possiblement ennuyeuse, je pense avoir découvert un chef-d'œuvre, vraiment. Et donc, avec la conviction absolue que la mise en scène qu'on a faite est contenue dans le texte, mais qu'elle ne l'épuise certainement pas. Donc, je me permets juste là des effets de lecture. Donc, cet homme amoureux, qui n'est pas aimé comme il voudrait l'être, qui doute de l'amour de cette femme en face de lui, se met à douter de la vérité du monde, même presque de la réalité du monde. Il y a presque une chose chez Alceste qui fait penser au début des méditations métaphysiques de Descartes, enfin, sur la fiction du mal ingénu. Est-ce que le monde existe vraiment? Enfin, presque, est-ce qu'il y a de la vérité là autour de moi dans le monde? Et qu'à partir de là, commence, oui, une vraie maladie, ou quelqu'un qui atteint une limite. Or, il me semble que beaucoup des personnages de la pièce sont aux limites, en réalité. Philinte est aux limites, probablement. Eliante est aux limites. Célimène est aux limites. Oronte est aux limites. Arsinoé. Les marquis, tous ces personnages sont en train d'atteindre des limites. Et au fond, on se disait entre nous qu'on aurait dû appeler ça, non pas les misanthropes, le misanthrope, mais les misanthropes. C'est-à-dire que la misanthropie guette. La misanthropie guette possiblement tout le monde. Elle peut contaminer à tout instant. Et du coup, je finis juste là-dessus, et du coup, on s'est dit que, il fallait que le texte circule autrement. Et donc moi, j'ai pris du texte d'Alceste et je l'ai donné à d'autres personnages, par exemple. En particulier au personnage d'Oronte, qui a pris dans la mise en scène qu'on a faite une dimension tout à fait différente de celle qu'il a dans le texte initial. Et puis surtout, on a répété à 5 reprises, en faisant varier les interlocuteurs, un échange très célèbre dans la pièce. Où courez-vous? Je sors. Demeurez. Pourquoi faire? Demeurez. Je ne puis, je le veux, point d'affaire. Ces conversations ne font que m'ennuyer, et c'est trop que vouloir me les faire essuyer. Je le veux, non, il m'est impossible. Eh bien, allez, sortez, il vous est tout loisible. Et à 5 reprises, différents personnages échangent, ont cet échange, Auront et Alceste, d'abord Alceste, Célimène et Éliante, qui commencent à avoir cet échange. Au milieu de la scène 1, Célimène part, puisqu'elle est là. Elle supporte plus qu'en train de dire Alceste, elle sort. Éliante lui dit, où courez-vous? Je sors. Ensuite, entre Alceste et Célimène, l'échange va avoir lieu, mais dans les deux sens. Une fois ce sera Alceste qui va sortir, une autre fois ce sera Célimène. Mais il aura lieu aussi entre Éliante et Philinte. Bref, cet échange-là circule entre les personnages, avec toujours ce leitmotiv du désir de sortir, de partir, d'enfin partir, et personne ne part jamais, jusqu'à la fin. Et à la fin où tout le monde partira. Voilà. Donc, la modernisation, si on veut dire, c'est pour ça que la question, c'est pas tellement la modernisation, c'est plutôt la question de l'usage, qui n'est pas exactement le même, c'est-à-dire que posant des prémices auxquelles on ne pouvait échapper en vertu de l'histoire de la troupe, en vertu de l'histoire de notre confrontation avec ce texte, on a proposé des solutions à des problèmes qu'on s'était posés qu'à nous-mêmes, hein. On a proposé des solutions qui nous permettaient d'affronter les contraintes qu'on s'était données, mais je pense pas qu'à aucun moment on se soit dit qu'on allait ni dépoussiérer, ni moderniser, ni etc., etc. Et c'est pour ça que sur le vers, sur la langue, sur l'alexandrin, c'est une question qu'on n'a pas réellement affrontée, parce qu'on n'a pas cherché un traitement pour ça.
En attendant, vous les dites, les vers.
Oui, on les dit, oui. On les dit en les respectant. En tout cas, si c'est la question, on a essayé de respecter les 12 syllabes du vers. On s'est dit que c'était le moins qu'on pouvait faire, mais on s'est dit toujours dans le même temps qu'on allait essayer de faire primer la syntaxe sur la musique, qu'on allait essayer de faire primer le sens sur le son.
Donc la logique prosaïque sur...
Oui, sur la logique versifiée, oui, en respectant les 12 syllabes.
Je voudrais revenir à Alceste, enfin, on va dire au personnage. Effectivement, c'est une pièce sur le misanthrope qui pourrait s'appeler Les Misanthropes. D'ailleurs, la personne qui dit les choses les plus méchantes dans cette pièce sur le genre humain n'est pas Alceste, c'est bien Philinte qui parle de chien malfaisant, de loup plein de rage, ou de loup malfaisant, de chien plein de rage.
Je crois que c'est des singes malfaisants et des loups pleins de rage.
Non, ça peut pas être les singes malfaisants. Ah, si, peut-être.
Il me semble, mon souvenir.
Oui, des singes malfaisants et des loups pleins de rage. Oui, tout à fait, à cause de là. Oui. Mais je voudrais revenir au trait de caractère d'Alceste. Dans la pièce telle qu'elle est écrite, il y a bien entendu le rapport amoureux à Célimène, qui est un rapport impossible, vu la constitution d'Alceste, celle de Célimène. Il y a donc la mélancolie, et il y a la question de la vertu. Donc la vertu au XVIIe siècle, c'est-à-dire cette qualité qui n'est plus seulement virile, hein, vertu c'est une qualité virile au départ, qui n'est plus seulement virile, qui on va dire, on pourrait traduire vertu par honnêteté, l'excessive honnêteté d'Alceste qui rend Alceste insupportable. Est-ce que vous l'avez... traité, prise en considération, et si oui, de quelle façon?
Je vais faire un détour pour répondre à la question, parce que je pense qu'on l'a pas affronté, cette question-là, directement. C'est-à-dire que justement, la problématique de l'honnêteté dans la pièce, on y a répondu par un dispositif pragmatique dans le jeu, qui était que moi j'ai demandé à tous les acteurs, à tous les personnages, d'être au maximum de sincérité à chaque instant. C'est-à-dire de ne pas supposer qu'Alceste était le seul dépositaire d'une honnêteté qui ferait défaut aux autres. Je vais prendre qu'un exemple, c'est le rapport à Oronte. Au début de la scène du sonnet, la fameuse scène du sonnet, quand Oronte vient, je vais donner deux réponses par rapport à ça. Oronte. Quand Oronte vient et qu'il dit à Alceste, je vous estime plus que tout, enfin, vraiment, vous êtes une personne exceptionnelle, etc., etc. Moi, j'avais demandé à l'acteur, simplement pour qu'il puisse jouer ça, de ne pas jouer la flagornerie, de ne pas jouer la flatterie, mais de jouer une admiration sincère, profonde pour Alceste. C'est-à-dire, tout à coup, d'imaginer cette Oronte, qui est plus jeune qu'Alceste, dans la mise en scène, un homme un peu plus jeune, qui vient voir Alceste, pour lequel il a une réelle admiration, et qui lui dit, écoutez, je vous estime tellement, je voudrais réellement avoir votre avis sur une chose que je viens d'écrire. Vraiment, comme un jeune auteur, ou je sais pas quoi, ou un jeune chanteur, puisque notre Oronte, c'est un crooner, c'est un chanteur, quoi. C'est quelqu'un qui vient raconter ses poèmes, puis on le voit chanter à plusieurs reprises dans la pièce. C'est une sorte de petites stars en devenir, comme ça. On déconnait entre nous en se disant, voilà, on imagine un jeune chanteur qui viendrait voir Mick Jagger et qui lui demanderait son avis sur... ou d'imaginer une ancienne gloire du rock retirée, qui trouve que plus rien n'a de sens et qu'on viendrait voir pour... Et qui se fait très très violemment rembarrer par Alcès, qui lui dit, c'est de la merde, jeune homme... vos écrits et Coronte, on comprend qu'il soit blessé à mort par ce refus. Mais par exemple, sur la question de l'honnêteté, se dire qu'au fond, là, c'était vraiment un ressort de jeu entre nous, tout le monde est extrêmement honnête. C'était presque excessif de le dire comme ça, mais d'essayer de faire ça. Par exemple, à un autre endroit, je disais, mais il faudrait presque imaginer, ça tient pas toujours, hein, c'est vraiment juste des démarrages, c'est des démarrages pour jouer les scènes. Que quand Arsinoé vient dire à Célimène, méfiez-vous, vraiment, ça va mal se passer pour vous, elle vient le faire pas seulement pour par perfidie ou par méchanceté ou par aigreur, mais qu'elle vient aussi, c'est toujours très mêlé les sentiments qui viennent qu'on va mettre quelqu'un en garde, enfin c'est à la fois pour lui donner une leçon et en même temps ça peut procéder d'un bon sentiment, comme on dit, on se disait ça un peu entre nous quand on travaillait. Ensuite, la question qui restait malgré tout en suspens, c'était de savoir à quel type de fausseté, alors j'ai dit que pour nous dans le travail, la fausseté que dénonçait Alceste procédait de la transe amoureuse, ou en tout cas du désarroi amoureux, mais en même temps, qu'est-ce qu'il condamne? Quel type de fausseté il condamne? Et finalement, là je vais faire un raccourci rapide qui aurait l'air de contredire ce que je disais tout à l'heure sur le refus de la traduction ou de la transposition, mais au final, c'est plutôt un point d'arrivée qu'un point de départ, on s'est rendu compte qu'avec le traitement qu'on faisait d'Oronte, qu'avec cet envahissement de la culture basse, dans la culture haute, ça j'en ai pas parlé, mais pour moi c'était une dimension importante de notre traitement de la pièce, c'était aussi d'affronter la culture haute, culture savante, misanthrope, bon, à la culture basse dans laquelle on vit et dans laquelle on baigne, et qu'on fréquente, même quand on est un praticien de théâtre. Et qu'au fond, ce que condamnait aussi Alceste, c'était la culture basse, finalement. Enfin, la culture basse, je m'entends, dans la mise en scène qu'on a faite, parce que dans le rapport du sonnet, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que la première condamnation prononcée par Alceste, au-delà de la scène 1, quand il condamne le comportement de Philinte, l'autre condamnation ensuite dans l'affrontement à Oronte, c'est une condamnation esthétique. Le méchant goût du siècle, en cela me fait peur. C'est-à-dire qu'il y a une protestation esthétique d'Alceste. Et ça, c'était une chose qui nous intéressait beaucoup, parce que j'avais le sentiment parfois que le théâtre public, dans sa transformation en village gaulois, unique défenseur du bon goût, de la grâce, du beau style et de la pensée, contre les platitudes atroces de la société de consommation et des industries culturelles. Il y a parfois un débat comme ça, on entend parfois les gens de théâtre expliquer que les théâtres seraient pleins si la télévision s'éteignait enfin, ce qui est un peu court, hein, très insuffisant comme vision, à mon avis. Donc en tout cas une condamnation assez facile de la culture basse par la culture haute chez les gens de théâtre, et je trouvais que la pièce elle permettait de reprendre ce débat aussi. Et donc du coup on s'est dit que finalement, puisqu'on voulait pas traiter la société de cour, puisqu'on ne faisait pas un traitement historique de la pièce, et qu'on n'allait pas montrer les fractures du temps, que c'était pas exactement comme ça qu'on allait traiter la chose, et qu'au fond, la meilleure transposition sur laquelle on arrivait, c'est que finalement, c'était de course, c'était la société du spectacle, au fond, et qu'il y avait une condamnation par Alceste de la concurrence généralisée pour les visibilités, qui est ce dans quoi on est aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de compétition acharnée pour la visibilité, et la visibilité médiatique en particulier, et qu'au fond, ce que refuse Alceste, c'est ce nouveau jeu-là. Il refuse, lui, de rentrer en compétition pour occuper la première place, pour occuper le gros plan, pour... Et c'est ça qu'il condamne. Voilà. Donc mais quand je dis ça, je n'épouse pas son combat en tant que metteur en scène. C'est-à-dire que ce qu'on montre, c'est juste une confrontation qui me semble être une petite, légère mise en abîme du combat que livre parfois le théâtre public ou pense livrer le théâtre public contre le méchant goût du siècle, lui aussi. Enfin, on a l'impression parfois que tout le monde a mauvais goût à part les gens de théâtre, enfin quelque chose comme ça, qui moi m'agace un peu, et en même temps, il m'arrive aussi parfois d'être partie prenante de ce débat et de moi aussi envoyer aux non-être les masses crétinisées qui quand même ne se précipitent pas pour venir écouter Heiner Müller, comment donc, enfin bref. Là, il y a un débat, en tout cas, je trouve. Et là, il y avait une question, sur l'honnêteté, mais encore une fois, qui n'est pas simplement sur la vertu ou l'honnêteté, mais qui est sur avons-nous quitté définitivement le monde de l'esprit pour rentrer dans le monde de la consommation superficielle, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et que si Alceste condamne quelque chose, c'est j'entendais chez Alceste cette plainte que j'entends chez certains gens de culture sur comment se fait-il que plus personne ne lise René Char, enfin voilà, c'était quelque chose comme ça, et de réactiver ce combat là voilà, sans prendre parti là-dedans, parce que de temps en temps, oui, je suis du côté d'Alceste, et puis de temps en temps je suis du côté d'Oronte, et et avec beaucoup de plaisir et de joie sincère. Enfin, par exemple, dans la scène du sonnet, je pense que dans la mise en scène qu'on a faite, la chanson d'Alceste est plus ridicule que le sonnet d'Oronte. Oui, elle est ringarde. Voilà, la chanson d'Alceste est ringarde, alors que le sonnet d'Oronte, après tout, pourquoi pas? Avec une bonne musique, ça pourrait faire une chanson correcte de Jean-Louis Murat. Voilà. Donc, c'est là qu'on a pu répondre à cette question. Au fond, sur la question d'Alceste, ce qui m'intéressait, moi, c'était la blessure. Comment c'est une blessure qui rend lucide? Parce qu'il y a tout de même une lucidité, même si elle confine à la folie chez lui. Et en tout cas, ce qui, moi, me touche toujours, sans donner raison à Alceste, parce que c'est pas la question, je pense, quand on montre le misanthrope, enfin, il me semble pas, pour moi, de dire si Alceste a raison dans sa condamnation de la fausseté du monde, ou s'il a tort, mais en revanche, de créditer grandement, d'apporter beaucoup de crédit et beaucoup d'affection à sa protestation, à son mouvement de protestation. Parce que celui-là, ce mouvement-là, même si on n'en épouse pas ni les prémices ni les conclusions, enfin, certainement pas pour ce qui me concerne, en revanche, le moment où on dit non, le moment où on dit là j'ai atteint ma limite, le moment où on dit là je ne supporte plus, là j'ai honte d'être un homme, quand je vois comment vous vivez entre vous, c'est la honte qui moi me saisit. Ça c'est un sentiment, j'allais dire, essentiel, enfin, y compris de l'engagement politique par exemple, enfin, de l'activation d'un refus politique par exemple. Voilà, mais je sais pas si ça répond exactement à la question, enfin, mais en tout cas, voilà, c'était les... Alors, si, sur l'honnêteté...
Si, c'est une réponse à la question, c'est bien une réponse à la question.
Sur l'honnêteté, une chose qu'on a faite, par exemple, c'est que moi, j'ai coupé toutes les petites... tous les petits inserts de Philinte dans le sonnet d'Oronte. C'est-à-dire que pendant le sonnet d'Oronte, Philinte n'arrête pas de dire « comme ce début est charmant », et Alceste lui dit « comment vous louez des sottises », enfin, etc., etc. Et ça, je l'ai coupé. Parce que... justement, je voulais pas que Philinte soit faux cul. Ça m'intéressait pas, cette dimension-là du personnage à ce moment-là. Je le dis rapidement et un peu vite, hein, je voulais pas qu'il y ait de fausseté particulière de la part de Philinte. Enfin, et en même temps, c'était compliqué d'imaginer que Philinte admire sincèrement le sonnet. Enfin, donc voilà. Donc par exemple, ça, sur la question de l'honnêteté, c'est une chose qu'on a évacuée.
Je donne, bien sûr, c'est mon point de vue, hein, mais mon point de vue de lecteur qui prétend se situer du côté du texte, avec ce que je sais du texte, à la création du Misanthrope, le fameux sonnet d'Oronte a été applaudi. Il a été applaudi par des spectateurs. Vous savez, c'était l'époque où on lisait, les gens lisaient leurs sonnets dans les salons. Et les gens qui ont applaudi à la lecture du texte d'Oronte, ce n'est pas les bourgeois de la ville habituelle, c'était les lettrés, les mondains qui allaient voir le Misanthrope, qui avaient la prétention d'être une grande comédie en 5 actes. Et il a été applaudi. Et c'est un tour de force de Molière d'avoir fabriqué, puisque c'est lui aussi l'auteur du sonnet, quelque chose qui soit applaudi. L'autre tour de force, c'est bien sûr de construire la critique. Mais je crois quand même, d'abord, que la réaction d'Alceste, du coup, est détestable. C'est-à-dire, quand vous dites la chanson du roi Henri, elle est ringarde, elle était ringarde, je crois, dans le contexte de la pièce, du coup. Bien sûr qu'il critique... C'est la méchanceté, la mélancolie qu'on voit, enfin quand même, on ne peut pas critiquer comme ça, c'est trop facile, et en plus pour sortir quelque chose d'aussi idiot. Je crois que la scène, du côté du destinataire, c'est-à-dire la réception de la scène, c'était ça, et je ne sais pas, je me rappelle avoir posé la question à mes étudiants, on pourrait hésiter, on pourrait dire effectivement, comme vous dites, Philinte est faux cul, et donc il a été pris en flagrant délit, d'hypocrisie, de petitesse par Alceste. Et je me rappelle avoir mentionné cet exemple parce que c'est le seul cas de figure où le personnage du raisonneur, celui qui a normalement le rôle de la mesure dont on a les équivalents dans l'école des femmes, dans le Tartuffe, etc., serait peut-être pris en flagrant délit quand même de quelque chose de pas très beau. Mais on peut aussi, et je pense que c'est plutôt de ce côté-là,
considérer que c'était un éloge sincère.
Sincère, mais aussi... alors, on peut aller jusqu'à sincère. De toute façon, le texte a réellement de la qualité. Il a été pris comme un texte de qualité. Mais aussi montrer... C'est une des choses que montrait ce texte du XVIIe siècle, la différence entre quelqu'un qui a tout simplement acquis quelque chose qui est une qualité à l'époque, qui sont les codes les codes de la société. Mmh. C'est dans une société très codée, on pourrait dire par exemple l'université, il y a des façons de dire, il y a par exemple un adverbe que j'ai appris, même pas en devenant universitaire, que j'ai appris réellement en venant ici, là où je suis, qu'utilisent tous mes collègues, donc que j'utilise aussi. Je me rappelle n'avoir jamais utilisé, même quand j'écrivais des mails, ou, qui est cordialement. Cordialement, on sait très bien ce que ça veut dire, ça veut dire du fond du cœur. Mais on sait très bien aussi que si on dit cordialement, c'est justement à des gens à qui on ne parle pas du fond du cœur. On leur parle d'une façon bienveillante, a priori bienveillante, a posteriori bienveillante, mais ça ne veut pas dire... Et moi, je l'interprète comme ce genre de geste que ne peut pas supporter Alceste, c'est-à-dire il goûte le sonnet, il y a quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, donc il lui donne la reconnaissance, ça fait partie de ses habitudes de convivialité, justement, qu'Alceste, qui vient d'ailleurs, ne supporte pas. Bon, mais peut-être c'est simplement mon regard.
Non, je pense que c'est une lecture tout à fait possible et intéressante. Théâtralement, dans la dynamique du jeu, c'est compliqué à construire. C'est très compliqué à construire. C'est très compliqué à construire parce que, d'abord, les interventions de Philint interrompent sans arrêt Oronte. Là, je passe vraiment de pragmatique de jeu. Donc, pour l'interprète d'Oronte, c'est... Voilà. En plus, il y a les apartés d'Alceste qui s'incrustent en plus. C'est une mécanique qui est très, très difficile. Mais d'ailleurs, qui...
Bien sûr, mais quand je dis c'est ça, oui. c'est ça. Moi, je pensais la pièce telle qu'elle est pour le destinataire
de l'époque.
Oui,
bien sûr,
C'est-à-dire,
oui.
Effectivement, s'il fallait reconstruire tout ça, ce serait très compliqué.
Oui, c'est très, très difficile, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que... Par exemple, il me semble, juste sur la question, encore une fois, de la transposition-modernisation, parce que j'entends beaucoup ça, moi, dans les retours que les gens font, qui voient le spectacle, sur « vous avez modernisé », et je reste persuadé que Molière n'a pas besoin d'être modernisé, enfin, c'est pas cette question-là, c'est juste, encore une fois, des usages, c'est inventer des façons de l'habiter, ça c'est autre chose, il me semble. Mais justement, sur la question de la destination et des destinataires, il me semble, mais là je parle sous votre contrôle, qu'on peut lire la pièce, qu'on peut voir dans Alceste un gentilhomme frondeur,
bien
possiblement.
Sûr. Bien sûr, mais moi, je ne contrôle rien.
Non, mais puisque vous avez étudié beaucoup plus que moi la question de la destination et de la réception de la pièce, c'est possiblement un gentilhomme frondeur s'oppose à la mise au pas de la noblesse dans la société de cour. Enfin voilà, qui refuse la disparition des grands féodaux.
On pourrait le dire comme ça, sauf que ce n'est pas ce que le texte dit lui-même, mais c'est un espace qui est possible. Ce que le texte propose, je suis prudent, je dis propose, en tout cas je l'ai toujours lu un peu comme ça, et même propose à mes étudiants à cause de deux choses, mon Dieu, ça se voit dans le lexique, on peut voir même les jurons des marquis sont parbleu. Bon. Ce qui est déjà un peu vulgaire, si on regarde comment, par exemple, Philin s'exprime, Philin ne dit tout au plus que « mon Dieu ». Bon. Mais alors, tête bleue, sacre bleu, etc. Bon. Voilà quelqu'un qui parle comme sous le siècle de Louis XIII, qui a une propriété en province, qui est en décalage par rapport à ce que la noblesse est en train de venir à toute allure. Tout à l'heure, à une époque où le temps est long, en plus, normalement. À toute allure, sous la férule de Louis XIV. Moi, je le vois personnellement comme ça. Alors, ça veut dire que ça ouvre en tout cas un espace où on peut rêver d'un Alceste frondeur, même contre ce que la noblesse centralisée, parisienne, etc. Effectivement, c'est un espace qui existe à la lecture. Mais la question, puisque vous dites sous mon contrôle, je crois que la question de la destination de la pièce, c'est-à-dire le destinataire pour qui on l'écrit, pour des gens censés la recevoir, forcément ne recoupe pas la question du lecteur ou du spectateur à partir du moment où il y aurait, mon Dieu, ne serait-ce qu'un espace de 30 ans ou de 40 ans, simplement parce que c'est impossible. Quelque chose que j'expliquais il y a longtemps maintenant à mes élèves de théâtre, c'est que s'il était possible, on m'a parlé il y a longtemps d'un universitaire qui avait recréé à Aix, je crois que c'est le CIN, le CIN dans les conditions de l'époque d'après, bon, ça devenait une espèce de pièce de musée, c'est peut-être possible, moi je me rappelle avoir des souvenirs d'ennui pour avoir vu la vraie cantatrice chauve comme à l'époque et tout, et seulement 20 ans après, où je ne comprenais pas, j'étais très content de voir un monument de musée, mais s'il était possible, j'en suis pas sûr, de recréer exactement une pièce telle qu'elle se jouait il y a, mon Dieu, 50 ans, eh bien, si c'était vrai, eh bien, cette pièce ferait un bide.
Oui.
Forcément, puisque nous ne pouvons pas être les gens d'il y a 50 ans. Et donc, nous sommes les mêmes quelque part qu'il y a même 3000 ans, mais nous ne sommes pas exactement les mêmes.
Oui, c'est pour ça qu'encore une fois, ça renvoie, moi, sur cette chose que je disais tout à l'heure sur l'usage, enfin, sur une façon d'habiter la pièce. C'est-à-dire qu'en regardant mais lointainement, parce que je ne me suis pas penché de manière très précise sur l'histoire de la pièce, etc. Mais de toute façon, même quand je découvrais des choses possiblement intéressantes, ça, c'est-à-dire un conflit très particulier à cette époque au sein de la noblesse sur la mise au pas des grands féodaux et le début du centralisme politique qui va ensuite engendrer d'ailleurs la révolution, etc., etc. Le début de l'absolutisme royal qui fera ensuite l'état jacobin, enfin c'est vraiment la droite ligne, ça me paraissait très compliqué d'espérer faire entendre ça aujourd'hui en montant de misanthrope par exemple. En revanche, une chose peut se faire entendre, c'est le conflit effectif entre un monde ancien et un monde neuf. Ça, c'est un conflit très actif dans la pièce. Alceste récuse l'entrée dans le monde nouveau. Et Oronte, Célimène, les marquis, Philinte et Liante, on sent qu'ils sont en train de s'y résoudre, de l'accepter. Philinte a son corps défendant, mais il sait bien qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Je pourrais prendre un exemple. Aujourd'hui, pour moi, ce serait plus la dissolution de l'État-nation dans une Europe supranationale. Voilà, on va passer à un autre monde. Alors on peut dire non. Non, c'est impossible, on ne va pas dissoudre la nation dans un contexte supranational, on ne va pas changer de monde. Et puis des gens disent, si, si, c'est formidable, il faut impérativement et rapidement changer de monde. Et d'autres disent, de toute façon, on est en train de le faire. Voilà. Donc ce conflit-là dans la pièce, au sein d'un monde qui change, l'apparition d'un monde nouveau et le refus d'y rentrer, ça, moi, je trouve que c'est une problématique qui s'entend très bien et qui rejoint ce que je disais en commençant sur la question nationale.
Tout à fait. En plus, c'est... Ce qui est frappant, c'est dans ce que vous dites, vous remettez Philinte à sa place, qui est la place de la mesure. C'est-à-dire, si on file la métaphore, on dirait que les marquis sont ceux qui disent c'est moderne, coco, on y va, c'est bien, puisque c'est moderne de toute
Absolument.
façon. Et Alceste est un réactionnaire, au sens strict, hein, sans mettre de valeur. Il a peut-être tout à fait raison, il y a des fois, on a raison d'être réactionnaire. Il a peut-être tout à fait raison, mais c'est effectivement le réactionnaire type lorsqu'il parle de la mode, y compris
Bien sûr,
vestimentaire,
bien
puisqu'il
sûr.
parle aussi de la mode vestimentaire.
Oui, tout à fait. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'est que il devenait réactionnaire en matière de goût esthétique. Et de la mode vestimentaire et le goût. Alors chez nous, il est musical, là, il est poétique au XVIIe siècle. Mais oui, le misanthrope qu'on a fait, il est saturé de chansons anglo-saxonnes, ce que je disais tout à l'heure. Et c'est assez troublant de voir que ça a été peu relevé. Alors qu'au début, moi, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, mais mettre des chansons en anglais face à l'alexandrin classique, d'abord, ça risque d'être très compliqué. Ça passe, pas toujours en fonction de l'état de la représentation, ça passe plus ou moins bien, mais personne l'a relevé. C'est-à-dire, personne n'est venu me dire, mais quand même, pourquoi mettre de la chanson anglaise? Alors, je travaille à Belfort, je ne sais pas si Jean-Pierre Chevènement l'a vu, lui, je pense qu'il m'aurait posé la question, j'espère en tout cas, mais pour moi, ça, c'était une vraie provocation, c'était une vraie question,
Est-ce qu'il y a
c'est-à-dire.
du rap?
Non, non, non. Parce
Parce que
que je suis.
moi, il y a quelque chose, ça,
Je suis
c'est
pas. Je suis
mon
pas.
oreille à moi qui est frappée
Je suis pas
par
très
le
fan de
rap, c'est que
rap.
la plupart des rythmes de rap, j'avais fait un tabac en parlant il y a longtemps, en faisant le Cid avec des petites quatrièmes dans les quartiers nord de Marseille, le rythme de rap, c'est le rythme de
L'Alexandrin,
l'Alexandrin.
d'accord, c'est de l'Alexandrin, oui. Oui, c'est possible, oui. Donc non, il n'y a pas de rap, mais c'est vrai que le sonnet d'Oronte, il n'est pas chanté, il est dit, mais je sais qu'il y a des copains qui ont vu le spectacle, des camarades, et qui ont dit, c'est un hommage à Grand Corps Malade, qui est ce grand slameur là qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Oui, il y a quelque chose comme ça, effectivement, avec le slam aujourd'hui, en plus, il y a un endroit où attraper l'Alexandrin qui serait assez, assez différent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la pièce, il y a bien la confrontation. Et moi, je pense, là, pour faire juste une incise politique et qui renvoie aussi au Sahara quand même, que c'est la grande question de la gauche aujourd'hui pour moi, c'est que il me semble parfois que la gauche, après avoir été progressiste, a aujourd'hui des réflexes essentiellement réactionnaires, et que même si je suis assez d'accord pour dire il est bien de temps en temps d'être réactionnaire, de savoir refuser un certain nombre d'évolutions, et en même temps, il me semble aussi que la question de la gauche, c'est savoir comment améliorer la tendance, c'est-à-dire l'accompagner pour l'emmener ailleurs, accompagner le mouvement pour l'emmener ailleurs. Et que oui, dans ce point de vue-là, il y a chez Alceste, pour moi, et là je fais des raccourcis rapides, une grande figure de gauche par rapport à une évolution de la société. Aujourd'hui, c'est la droite qui est révolutionnaire dans notre pays. On le voit bien là même dans les élections qu'on est en train d'affronter. C'est la droite qui porte un discours de rupture, de transformation radicale, etc. Et c'est la gauche qui conserve, qui a l'air de vouloir conserver les structures de l'État-nation, les services publics, les acquis sociaux, les fameux acquis sociaux. Et en tant qu'homme de gauche, je souffre profondément de cette contradiction. J'aimerais faire encore, être encore dans le parti du mouvement. J'ai l'impression parfois d'appartenir à mon corps défendant au parti de l'ordre. C'est pour ça que la pièce me touche profondément, parce que je comprends et je partage affectivement, sentimentalement, certaines des positions réactionnaires d'Alceste, mais j'aimerais en même temps trouver une position de gauche pour être dans le parti du mouvement. Et je me permets de dire une chose là-dessus, sur la fin de la pièce, puisqu'on se questionnait là-dessus. C'est Oronte qui finit la pièce dans la mise en scène qu'on a faite, en clin d'œil final, c'est-à-dire c'est une sorte de victoire finale d'Oronte. C'est Oronte qui finit par gagner, c'est lui qui reste seul en scène comme une sorte de rockstar en gloire. Oui, il reste le seul maître du terrain à la fin. C'est Célimène qui part, enfin, ils sont tous partis sauf Célimène, elle est restée là seule, et puis elle part. Elle, abandonnée, elle part, mais derrière elle restait quelqu'un, et c'est Oronte. Donc c'est bien ce parti du mouvement, mais qui appuie une transformation qui peut être tout à fait destructrice, tout à fait dommageable.
Parce que la rupture, comment dire, en 1815, le progrès et la rupture, c'est la Restauration.
Oui.
Les vieilles lunes et la réaction, c'est la République aussi.
Oui, bien sûr. Donc effectivement, il y a un jeu de balancier. Mais c'est vrai, je disais ça simplement en incise et rapidement. La sensation qu'on peut avoir parfois aujourd'hui d'être condamné à la misanthropie, alors même qu'on voudrait accompagner le mouvement et l'emmener vers des territoires habitables. Voilà. C'est qu'on a le sentiment aujourd'hui que le mouvement ne nous emmène que vers de l'inhabitable, que vers de l'insupportable, de l'intenable. Et qu'au fond, la seule chose vivable aujourd'hui, ce serait de résister au mouvement. La question simplement politique que moi je me pose, c'est comment l'accompagner vers des contrées habitables. Enfin, voilà. Et la pièce, je trouve, à cet endroit-là, cette pièce-là, le misanthrope, elle est vraiment un nœud.
Elle pose cette question, ouais. Pour vous ?
Oui, elle pose cette question, bien sûr, parce que je suis d'accord avec Alceste sur tout et sur rien en même temps. C'est-à-dire, je comprends son mouvement, je le pense, à l'endroit où il est réactionnaire, je le pense très, très dommageable. Mais là, je dérive, hein, là, je suis en train de dériver, de raconter des choses un peu plus flottante, c'est-à-dire que c'est pas ça qu'on a activé au début dans le travail. Mmh. C'est vraiment en traversant la pièce que je le vois dans la réception que les gens ont de la pièce, c'est-à-dire que pour certains, je dis ça parce que il y avait dans Ça ira quand même un texte très très violent de Raoul Weinegem sur l'état du monde, une sorte de condamnation, un pamphlet assez terrible sur le 11 septembre, enfin, etc., etc. Et sur la marchandisation généralisée, sur le règne de la marchandise, l'ultralibéralisme, enfin, on imagine bien les thématiques qui sont celles de Weinegem. Et ce texte, à la fois, sentimentalement me touche, affectivement me réconforte, et me dérange en même temps profondément à un autre endroit. Voilà. Et Alceste, pour moi, procède un peu de la même chose. C'est-à-dire j'ai une empathie profonde pour le personnage, et je pense en même temps un désaccord politique, alors que je me sens beaucoup moins en empathie avec Philinte, mais qu'à plein de moments, je comprends son pragmatisme, enfin, son réalisme. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais voilà, c'est pour ça que la pièce, je la trouve infiniment belle, ou que je disais tout à l'heure un chef-d'œuvre, mais je le crois, c'est qu'elle diffracte des contradictions, elle fait résonner des contradictions, enfin, elle permet de traduire des silences, nos propres silences, à la fois sur des questions intimes, des questions amoureuses, enfin, parce qu'on peut tout à fait se reconnaître dans ces atermoiements du désir et les incertitudes de l'amour telles qu'elles cessent les traverses, et Célimène aussi bien d'ailleurs. On se demandait, ment-elle, dit-elle la vérité, enfin, le sait-elle elle-même, bref, enfin, cette confusion-là, cette confusion des sentiments, en plus énoncée dans une langue d'une exactitude effrayante, enfin, c'est-à-dire qu'au moment du plus grand trouble, ces gens s'expriment avec la plus grande clarté. C'est ça que je trouve terrible dans la pièce, est magnifique. Et en même temps, il y a aussi à l'endroit, on pourrait dire, plus politique, ou en tout cas à l'endroit de la question du rapport social, les mêmes endroits de contradiction sans solution simple. Voilà. Une des questions, ça, c'est que c'est Coppeau, je crois, qui disait ça, quand on montre le misanthrope, il y a toujours deux parties qui se lèvent, ceux qui condamnent Alceste et ceux qui le défendent. Moi, je trouve la pièce parfaitement indécidable, très très indécidable.
Et ce qui est vrai dans ce que vous vous dites, c'est la seule pièce de Molière, je crois bien, D'abord parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même type de jeu amoureux que les jeux amoureux, mon Dieu, du théâtre européen à l'époque, hein, où ça remonte aux Romains, c'est-à-dire où des jeunes découvrent l'amour et sont victimes, et puis on en sourit, et puis des fois même on en rit, sont victimes de leurs sentiments. Il y a une maturité chez ces personnages qu'ils peuvent, au moins Alceste de son côté, au moins Célimène du sien, Eliante et Philinte, laissons les marquer ridicules, mais qui arrivent à parler de ce qu'ils ressentent, qui
Ah
arrivent à
oui.
parler l'amour comme s'il y avait une expérience, au moins une expérience de réflexion, sinon une expérience vécue.
Oui,
Et
c'est.
c'est frappant si on compare aux autres pièces de Molière.
Ah oui, et puis c'est très troublant dans l'acte 4, la scène Alceste Célimène, quand il lui dit à traîtresse, mon faible est étrange pour vous, vous me trompez sans doute avec des mots si doux, mais il n'importe, il faut suivre ma destinée. Cette espèce de lucidité extrême, le choix de l'aveuglement, par exemple, chez Alceste, il choisit de s'aveugler. Si on pense au théâtre de Marivaux, que je connais mal, mais pour ce que j'en connais, où on sent que les personnages sont toujours dans le lapsus, c'est-à-dire n'expriment jamais ce qu'ils ressentent, sont toujours trompés par leurs propres désirs, ou expriment des choses qui sont le contraire de ce qu'ils ressentent, etc., etc. Là, chez Molière, non, non, ils expriment assez exactement ce qu'ils ressentent, comme si c'était des personnages dépourvus d'inconscient. Enfin, c'est très très beau, comme si tout était à l'état du conscient, et que eux-mêmes, parfois, en conscience, choisissaient l'aveuglement. Quand il lui dit, à propos du billet, efforcez-vous ici de vous montrer fidèle, et je m'efforcerai, moi, de vous croire tel. Donc, il lui dit, mais mentez-moi, s'il vous plaît, mentez-moi. C'est magnifique, cette scène, elle est sublime pour ça. C'est-à-dire qu'il, en conscience, lucidement, il décide qu'il va peut-être s'aveugler. Enfin, c'est le contraire de ce qu'on découvre, enfin, ce qu'on a parfois dans d'autres rapports amoureux, justement.
Bien, nous verrons le Misanthrope à Dijon. Donc, je rappelle les dates de mardi 20 mars au vendredi 23 mars. Le dernier soir de la représentation, il y aura donc le Misanthrope
Et ça
et
ira quand même.
voilà. Au revoir.